VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 11 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia.
Et Nanit Talani.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba a été déclaré président du pays et sera investi mercredi.
En Guinée-Bissau, le président Oumaro Sissoko Embalo accuse 3 reprises de justice aux États-Unis dans le récent coup de force contre lui.
La Libye se retrouve aujourd'hui avec 2 premiers ministres après un vote controversé du Parlement.
Le président américain Joe Biden demande aux Américains de quitter l'Ukraine maintenant face aux risques de guerre.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba a été déclaré président par le Conseil constitutionnel. Il doit prêter serment mercredi, a annoncé hier le Conseil à Ouagadougou. Le point avec Michel Joseph.
Dans un communiqué publié hier, le Conseil constitutionnel précise que l'audience solennelle de prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba, en qualité de président du Faso, chef de l'État, est fixée au mercredi 16 février à 10h locale dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel à Ouagadougou. Le lieutenant-colonel Damiba devient donc officiellement le président d'une transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. La CDAO et l'Union africaine ont suspendu le Burkina Faso de leurs instances demandant un calendrier raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Samedi, un décret de M. Damiba a annoncé la création d'une commission de 15 membres qui doit élaborer un projet de charte assorti d'une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en œuvre dans un délai de 2 semaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit mercredi gravement préoccupé par le changement inconstitutionnel au Burkina Faso, mais n'utilise pas les termes de coup d'État militaire et n'exprime pas de condamnation.
Le leader de l'ex-parti au pouvoir en Guinée-Bissau rejette le déploiement annoncé d'une force régionale suite à ce qui a été présenté comme un coup d'État avorté le 1er février. Jacques Aristide.
Pour Domingo Sachimoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, il faut dire à la CDAO que le pays a une constitution. C'est le Parlement, ajoute-t-il, qui doit demander l'appui éventuel d'une force étrangère et définir sa mission et son mandat. Le palais du gouvernement a été attaqué au début du mois par des hommes armés pendant que le président Oumaro Sissoko Embalo tenait un conseil des ministres extraordinaire. Le chef de l'État est sorti indemne après des heures d'échanges de tirs qui ont fait 11 morts d'après le gouvernement. Nous devrions dire non à l'entrée de toute force étrangère en Guinée-Bissau sans l'autorisation de l'Assemblée nationale populaire. Encore déclaré hier, Domingos Chimoes Pereira, arrivé en tête au premier tour de la présidentielle en 2019, avant d'être battu au second par Oumaro Sissoko Embalo, un résultat qu'il a toujours rejeté.
Par ailleurs, le président Oumaro Sissoko Embalo a accusé jeudi un ex-chef de la Marine nationale, l'ex-contre-amiral José Américo Boubou Natchuto et l'ancien officier Tchamiyala et Papis Djemé, 2 autres hommes arrêtés par le passé par l'agence américaine antidrogue, d'être derrière ce qu'il présente comme la tentative de coup d'État avorté du 1er février. Tous ont été arrêtés après ces événements, a dit M. Embalo, qui lie directement cette tentative au trafic de stupéfiants.
La Cour pénale internationale a rejeté hier une demande d'indemnisation déposée en septembre par Charles Blé Goudé, qui a été détenu à La Haye avant d'être acquitté en même temps que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en mars 2021. Les droits de M. Blé Goudé à un procès équitable ont été garantis et il n'a pas été démontré qu'une forme d'erreur judiciaire grave et manifeste avait été commise, a dit la CPI. M. Blegoudé étant l'ancien pilier du régime de M. Gbagbo.
La Libye s'est retrouvée jeudi avec deux premiers ministres après un vote controversé du Parlement. L'ONU a refusé de cautionner la démarche des autorités de l'Est. Les détails avec Jean-Roger Bian.
L'ONU a fait savoir qu'elle continue de soutenir M. Déba. Les dirigeants libyens doivent s'unir pour se mettre d'accord ou se remettre d'accord sur la voie à suivre, a réclamé son porte-parole Stéphane Dujarric. Dans un communiqué conjoint publié fin décembre, après le report des élections, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie avaient apporté leur soutien à la poursuite du mandat de l'exécutif actuel jusqu'à la tenue effective des scrutins. Le Parlement siégeant à Tobrouk a désigné l'influent ex-ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, pour remplacer Abdelhamid Déba à la tête du gouvernement intérimaire. M. Déba a fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes. Le président du Parlement, Aguila Saleh, est d'ailleurs accusé d'avoir enfreint toutes les procédures pour faire nommer M. Bachaga. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, des tirs qui n'ont pas fait de victimes ont visé le convoi de M. Déba à Tripoli, selon le ministère de l'Intérieur qui a annoncé l'ouverture d'une enquête.
Les pénuries de carburant et de liquidité ont quasiment interrompu les opérations humanitaires dans la région éthiopienne du Tigré, en proie depuis 15 mois à la guerre, a averti hier une agence de l'ONU. Le conflit opposant les forces gouvernementales éthiopiennes aux rebelles du Tigré a fait des milliers de morts et, selon les Nations Unies, a conduit des centaines de milliers de personnes au bord de la famine.
Le président américain Joe Biden a appelé jeudi les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant en raison du risque accru d'une invasion russe, en avertissant que la situation pouvait vite s'emballer malgré les efforts diplomatiques des dernières semaines. Dans une interview à la chaîne NBC, M. Biden a répété qu'il n'enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains, dans l'hypothèse d'une invasion russe, car cela pourrait déclencher une guerre mondiale.
Au Canada, les manifestations contre les mesures sanitaires anti-Covid se poursuivent. Un troisième axe frontalier avec les États-Unis a été bloqué. Le point avec Mohamed Houmfa.
Quatre jours après le blocage du pont ambassadeur entre l'Ontario au Canada et Detroit aux États-Unis, blocage qui perturbe déjà l'industrie automobile des deux côtés de la frontière, un autre axe a été ciblé par les manifestants canadiens qui sont dans les rues depuis bientôt deux semaines. Aucune circulation n'est possible, a indiqué hier la police de la province du Manitoba, en raison d'une manifestation impliquant un grand nombre de véhicules et d'équipements agricoles à Emerson sur cet axe reliant le Manitoba au Dakota du Nord. Les manifestants ont décidé de paralyser certaines voies commerciales essentielles. Plusieurs usines de constructeurs automobiles ont dû temporairement fermer ou fonctionnent au ralenti en raison des blocages. Le mouvement semble être dans une impasse à Ottawa. Des centaines de camions bloquent toujours les rues installées devant le Parlement et les bureaux du Premier ministre Justin Trudeau. La police a toutefois annoncé jeudi être parvenue à négocier le départ d'une vingtaine de camions, dont certains dans le centre-ville. Mais la plupart des camionneurs répètent qu'ils ne vont pas bouger.
Le chercheur français Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida, est mort à 89 ans à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine en France. Le point avec Nathalie Barge.
Luc Montagnier a reçu en 2008 le prix Nobel de médecine pour avoir identifié le virus du sida en 1983 avec ses associés Françoise Barisinoussi et Jean-Claude Sherman. Le virologue a travaillé pour le CNRS, enseigné à l'Institut Pasteur et a été directeur du Centre de biologie moléculaire et cellulaire du Collège Queen's à New York. Ses prises de position répétées contre les vaccins lui ont valu en novembre 2017 la condamnation officielle de 106 membres des académies des sciences et de médecine en France. Après des propos controversés contre les vaccins anti-Covid qui lui avaient attiré la sympathie des anti-vaccins, il a fait reparler de lui ces deux dernières années avec des hypothèses sur le coronavirus réfutées par la communauté scientifique. Plus récemment, notamment le professeur Montagnier, s'est opposé aux vaccinations obligatoires en France et s'est à nouveau attiré les critiques de ses collègues universitaires pour avoir diffusé ce qu'ils ont qualifié de messages dangereux pour la santé publique.
La Minute Éco, Rosine Mounezero.
La société algérienne Sonatrach a signé un accord jeudi avec la National Oil Corporation libyenne, ouvrant la voie à la reprise des activités du géant pétro-gazier algérien en Libye. Selon le communiqué, cet accord permettra également de renforcer la coopération dans les domaines de la réalisation de projets pétroliers et gaziers, ainsi que des services de l'apprentissage et de la formation. La société avait investi 150 millions de dollars en Libye et entendait investir 50 millions de dollars supplémentaires. Des responsables libanais ont entamé le 24 janvier des pourparlers avec le FMI sur des mesures de soutien visant à sortir le pays de la pire crise économique de son histoire. Le FMI a fait état de progrès dans les discussions avec le Liban, mais il a souligné la nécessité de poursuivre un travail approfondi. La monnaie a perdu environ 90% de sa valeur sur le marché noir, et 4 Libanais sur 5 vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté, selon l'ONU. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi un vaste plan de relance nucléaire, avec l'objectif pour 2050 de construire 6 nouveaux réacteurs EPR de seconde génération et d'étudier la construction de 8 réacteurs supplémentaires. La décennie passée a été marquée par un doute international sur le nucléaire, une période de glaciation suite évidemment au terrible événement à Fukushima. Mais désormais, il y a rupture du temps passé. Les conditions sont maintenant réunies pour la renaissance du nucléaire, a déclaré Emmanuel Macron.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Sénégal reste sur le toit de l'Afrique au classement FIFA du mois. Le tout nouveau champion d'Afrique gagne 2 places au classement mondial, occupant un historique 18e rang. Toujours sur le continent, le Maroc conserve sa 2e place comme il fallait s'y attendre. L'Algérie, éliminée au premier tour de la CAN 2021, est éjectée du podium pour se retrouver à la 7e place. Le Nigeria est 3e suivi de l'Égypte, 4e et de la Tunisie qui referme le top 5 du classement zone Afrique. Le Burkina Faso occupe la 10e place. Parlant justement des étalons, le Burkina, 4e à la dernière CAN, affronte la Belgique. Première nation au classement FIFA le 29 mars prochain, un match amical au Lotto Park d'Anderlecht. L'annonce est faite par la Fédération belge de football. Lors d'une préparation pour une Coupe du Monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d'autres continents. Fort de sa demi-finale lors de la Coupe d'Afrique, le Burkina Faso a d'ores et déjà démontré qu'il constituera un adversaire intéressant pour les Diables Rouges, explique le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. Basketball, les Brooklyn Nets ont transféré la star James Harden aux Sixers de Philadelphie en échange du meneur australien Ben Simmons, rapporte ESPN et The Athletic. Ce transfert implique Harden, MVP de la saison 2018, qui aura donc changé de club 2 fois en 2 saisons, puisqu'il était arrivé à Brooklyn il y a à peine plus d'un an en provenance de Houston. Les Nets vont récupérer dans cette transaction Ben Simmons, qui lui n'a pas encore joué de la saison après un bras de fer avec ses dirigeants, résultant de ses envies de départ, pointées du doigt par l'entraîneur Doc Rivers. Pour ses performances décevantes lors des derniers playoffs, le joueur ne voulait plus rejouer avec Philly, avançant un blocage psychologique. Le barbu ne vient pas seul, puisque l'ailier vétéran Paul Millsap est également du voyage. On reste ici en NBA avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Eh bien, 2 autres surprises. La nuit dernière, Phoenix bat les champions Milwaukee Bucks 129-109 et New York bat Golden State Warriors de Stephen Curry 115-114. Maintenant, Memphis et Détroit 132-107. Washington et Brooklyn Nets, ça c'est aussi une surprise, 113-112. Miami et la Nouvelle-Orléans 112-97, Toronto et Houston 139-120, Dallas et Los Angeles Clippers 112-105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a déclaré hier le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président du Faso. Les Burkinabés apprécient l'arrivée des militaires au pouvoir, mais selon des constitutionnalistes, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été déclaré président du Faso par le Conseil constitutionnel qui dit avoir constaté la vacance de pouvoir. Les réactions de quelques Burkinabés.
C'est ce qu'on s'attendait depuis son premier discours à la nation. Il a bien et bien dit que c'est la sécurité qui serait sa priorité primordiale.
C'est ce que moi j'attendais depuis la nuit des temps. Parce que moi je vois un pays comme ça, comme Burkina Faso, c'est un pays qui doit être gouverné par vraiment les militaires. Parce qu'on a commencé par là. Il doit suivre les pas de la révolution. Et puis, bon, on verra. Nous faisons compte sur eux.
C'est une bonne idée. Vu que le pays fonctionnait sans président officiellement, s'il a été déclaré comme le président officiel du Burkina Faso, je trouve que c'est bien. Le Burkina Faso ne peut pas demeurer comme ça sans un président officiellement. Pour la bonne marche même de ce pays-là, il faut vraiment un homme à sa tête. Parce qu'actuellement, le pays traverse beaucoup de crises.
Cependant, les spécialistes de la Constitution ont un problème. Professeur Abdoulaye Soma, constitutionnaliste.
Si la démarche est de lui permettre d'avoir la qualité de président du Faso et d'exercer les fonctions du président du Faso, je pense également que dans la réalité, ce n'est pas contestable. Tout le monde a accepté la situation. C'est une question de démarche, donc ce n'est pas une question de contestation du pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, mais c'est une question de régulation, de correction de la démarche choisie par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel devait avoir une démarche lui permettant de motiver sa décision et de fonder sa décision sur des bribes de légitimité démocratique du pouvoir de Paul-Henri Damiba.
Et tout cela est regrettable selon Abdoulaye Soma.
Le Conseil constitutionnel a comme forcé la dévolution des fonctions du président du Faso. Et donc, il a tué la Constitution parce que la Constitution n'autorise pas de faire président du Faso un chef d'État qui serait arrivé autrement que par la légitimité démocratique. Tous ceux qui voudraient contester le pouvoir du président de la République le pourraient en droit constitutionnel burkinabé et ça pose un certain nombre de problèmes et tout à fait regrettables.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba va prêter serment le 16 février prochain. Mais le tout nouveau président aura des défis énormes à relever face au groupe djihadiste qui décime le pays depuis 7 ans. Ils semblent étendre leurs actions. 5 gardes forestiers et un soldat ont été tués dans un parc dans le nord du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, la contrebande d'hydrocarbures fait perdre à l'État des centaines de millions de francs CFA. Depuis la suppression de l'Agence de stabilisation et de régulation des prix des produits pétroliers en août dernier, le marché noir a gagné du terrain, un phénomène qui devient une préoccupation dans le pays, nous dit de Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
En août 2021, sur demande des partenaires financiers de la République centrafricaine, le gouvernement a supprimé 6 agences de l'État jugées budgétivores, parmi elles l'Agence de stabilisation et de régulation des prix des produits pétroliers ASRP. L'absence de ces gendarmes du secteur d'hydrocarbures a laissé libre cours à la montée en puissance de la contrebande. Fortuné Bata, directeur général de la SOCASP, la société de stockage des produits pétroliers.
Depuis quelques temps, nous avons constaté que la quantité moyenne qu'on sort par semaine et par mois des produits à destination des stations et des clients a sensiblement diminué. La raison est tout simple, hein. Nous sommes en train de voir le développement d'une certaine contrebande dans le pays, donc il y a des tierces qui n'ont pas d'agrément, qui n'ont rien, mais qui commence à faire l'importation des produits pétroliers et cela est une entrave totalement pour le fonctionnement et des stations et aussi du dépôt.
En 6 mois, l'État centrafricain a déjà perdu des centaines de millions de francs CFA à cause du commerce illicite du carburant. Le problème est aussi important dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Début février, une mission du ministère de l'Énergie a démantelé une importante quantité de carburant dans une habitation dans le 8e arrondissement de Bangui. Le ministre de l'Énergie déplore un danger dans les quartiers. Arthur Bertrand-Piri.
Si jamais il y a un incendie, ces fuites-là prennent feu, mais ça va aller dans un rayon de 5 km. Ce secteur-là sera calciné. Quelques secondes, voire en quelques minutes. C'est un danger pour ce quartier, c'est un danger pour Bangui, c'est un danger pour la nation.
Si l'État déplore des pertes financières et une concurrence déloyale encouragée par la contrebande, de nombreux centrafricains s'inquiètent pour leur sécurité.
C'est pas sûr que ces vendeurs-là puissent réserver ces carburants dans la maison afin de vendre, parce que ça peut toutefois créer des incendies qui peuvent jouer sur la population.
Le carburant déjà constitue un danger.
L'enfant peut jouer avec allumette, ça peut même brûler la maison. Le quartier tout entier peut prendre feu à cause de cette contrebande.
Comment comprendre que les trafiquants passent sans inquiétude plusieurs postes et barrières depuis les pays voisins jusque dans la capitale avec de tels produits? Le ministre de l'Énergie, Arthur Bertrand Piri.
C'est une question embarrassante, vraiment, il faut le reconnaître pour moi. Des centaines de fûts qui quittent l'extérieur, qui rentrent au niveau de la frontière, passent des barrières, passent des zones de contrôle, arrivent à Bangui, stockés, et on n'est pas informé. Bon, ça pose un problème.
Pour Dr Vidédieu Ngoko Zengue, deuxième vice-président du Conseil économique et social, la contrebande d'hydrocarbures freine l'essor de l'économie nationale.
Le commerce légalement installé ne peut plus croître et c'est les contrebandiers qui profitent, malgré que c'est des produits de mauvaise qualité, qui se font de l'argent, qui ne payent rien à l'État. Et c'est un manque à gagner important pour un État, surtout le nôtre. Donc il faudrait effectivement combattre la contrebande.
Supprimée sur demande des partenaires financiers de la République centrafricaine, la SRP devait être remplacée par une direction générale rattachée au ministère de l'Énergie. Cependant, rien n'est encore fait 6 mois après sa disparition. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Burundi, trouver du sucre est devenu très difficile depuis plusieurs semaines. Cette denrée devenue rarissime coûte parfois le triple au marché noir. Pourtant, la société sucrière de Kumosu, dans le sud du pays, produit la quantité nécessaire selon les responsables burundais. Les uns parlent de spéculation. Reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Les différents quartiers de la capitale économique du Burundi et des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura manquent cruellement de sucre pour son usage au quotidien. Supermarchés et boutiques n'ont pas vu les sacs de sucre sur leurs étagères depuis plusieurs mois. Cette jeune fille qui va terminer cette année son école secondaire indique que beaucoup de jeunes ont besoin de sucre.
Ça fait 3 jours que je pars à l'école sans boire du thé et c'est un problème à la maison parce que moi je suis grande, je peux supporter ça, mais mes petits frères et sœurs c'est encore plus dur. Et donc maman elle est obligée d'acheter des jus avec des beignets pour manger avec. Ah, je pourrais demander qu'ils fassent des efforts pour amener du sucre. Et donc, j'aimerais bien qu'on ait les moyens d'avoir le sucre. C'est facile. Il y a ce sumo qui travaille, en fait. On a besoin de ça.
Jackson Niyonzima, père de 3 enfants, ne cache pas sa peine car la valeur du sucre vaut actuellement plus que l'or.
Ça me dépasse du moment que hier, j'ai parcouru pas mal de shops de Bujumbura, alimentation qu'on appelle comme une machinista, et dans des boutiques, j'ai pas trouvé aucun kilo. Là où je suis arrivé, j'ai trouvé où on vendait une cuillère à 100 francs. J'ai acheté un sucre de 1000 francs. Ce n'est même pas un quart d'un kilo. Pour la famille, c'est un problème parce qu'on a de petits enfants et ils ont besoin de ce sucre. Je ne parviens pas à comprendre parce que les agents de la Sosumo, quand on est ensemble, ils nous disent que les stocks de la Sosumo sont pleins en quantité suffisante comme d'habitude, mais au niveau du marché, on ne parvient pas à comprendre.
Pour ce père de 5 enfants qui travaille tout près de la sucrerie de Kumosu, que ce soit en sigle au sud du Burundi, il se dit consterné par cette rareté de sucre au Burundi. André Harimana, architecte.
Ça nous rend une vie difficile puisque nous sommes obligés de chercher partout. Même moi, je travaille dans la région de Monsot auprès de la sucrerie. Là aussi, je ne trouve pas. Au moins pour pouvoir approvisionner ma famille. Quand je trouve même 1 kilo, même 2 kilos, 3 kilos, et c'est conditionnel, je dois acheter quelque chose pour avoir ça. Ou je dois donner quelque chose pour bénéficier de ce produit qui devient de plus en plus rare.
Du côté des autorités gouvernementales, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungi, a dernièrement estimé que la mauvaise gestion du sucre favorise les spéculations. Le directeur général de la société sucrée de Komoso affirme, quant à lui, que sa société n'a pas de souci de production du sucre, mais que l'administration doit contrôler le système de vente. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les inégalités criantes en matière de vaccins entre pays riches et pays pauvres. Au Sénégal, une nouvelle initiative espère réduire cette inégalité et rendre le continent plus autonome en matière de vaccins. Reportage à Dakar d'Annika Amerschlag, récit d'Arzuma Compaoré.
Le Sénégal a administré ses premières doses au public en mars 2021, plusieurs mois après que les vaccins COVID-19 sont devenus disponibles en Occident. Les stocks se sont tarés à plusieurs reprises au Sénégal et dans d'autres pays africains qui ont compté sur la communauté internationale pour obtenir ces vaccins. Aujourd'hui, seuls 11% des Africains sont vaccinés, contre 64% aux États-Unis et 72% au Royaume-Uni. Mais les scientifiques veulent changer cela. L'Institut Pasteur de Dakar s'est associé à BioNTech pour produire une installation de production de ces vaccins à ARN messager. Amadou Sall est le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar.
Donc la nécessité de s'assurer que nous avons le contrôle de notre approvisionnement est quelque chose qui est d'une importance critique en termes de sécurité sanitaire. Avoir un niveau de protection différent dans différentes parties du monde n'aidera pas à contrôler et à mettre fin à cette pandémie.
L'Afrique importe actuellement 99% de tous ses vaccins. La nouvelle installation devrait ouvrir plus tard cette année et produire 300 millions de vaccins Covid par an. L'Afrique du Sud a annoncé un partenariat similaire avec Moderna. L'Institut espère fabriquer les vaccins non seulement pour la prochaine pandémie, mais aussi pour les maladies endémiques comme la rougeole et la polio. Antoine-Marie Diatta, responsable du contrôle de la qualité des vaccins.
Effectivement, les standards sont de plus en plus élevés. Ça demande aussi, en termes de compétences, en termes de ressources humaines, des compétences qui sont extrêmement élevées aussi.
Mais l'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins contre la fièvre jaune. Les scientifiques y fabriquent des vaccins depuis des décennies. Docteur Ousseynou Badiane, directeur du programme élargi de vaccination du Sénégal.
L'Institut Pasteur a une très longue expérience dans la production des vaccins. Donc, vous savez que le vaccin contre la fièvre jaune a été développé ici et produit par l'Institut Pasteur et qui continue à le produire. Donc ils ont une certaine expertise dans le domaine du développement des vaccins. Donc rien n'empêche qu'ils puissent produire un autre vaccin qui est développé ailleurs.
Les informations erronées sur le vaccin COVID-19 se sont répandues dans toute l'Afrique, a ajouté M. Badiane. Les vaccins fabriqués en Afrique par les Africains pourraient donc contribuer à accroître la confiance et le nombre de personnes prêtes à se faire vacciner.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedouga et Nani Talani, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot et à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.